vous avez des questions à poser, des points, en profiter quoi. Est-ce que des précisions à apporter, des compléments.
Quand vous avez dit Saint Joseph et le nouvel Adam, alors moi je croyais que c'était le Christ qui était le nouvel Adam.
Oui. Il y a Adam. Excusez-nous, nous sommes. Pardon. Oui. C'est l'homme nouveau. C'est l'homme parfait. C'est l'homme rendu parfait, la créature. Tandis que nouvel Adam, Jésus, c'est Dieu quand même. Jésus, dans son hypostase, c'est Dieu. Et la personne de Jésus n'est pas humaine. Jésus n'est pas une personne humaine. Voilà. Ce qui fait l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit du Joseph, c'est quand même sa personne. Mais Jésus aussi est le nouvel Adam, bien sûr, parce que la nature humaine de Jésus est créée. C'est un peu comme quand on dit il y a trois personnes en Dieu. Il y a l'époux, il y a l'épouse, et il y a l'aspiration passive de l'époux et l'épouse, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la même chose, quoi. On peut dire que dans l'humanité, notre humanité, elle est assurée sur un trépied d'éternité. Voilà pour Jésus, nouvel Adam, sur le trône de l'humanité nouvelle, voilà pour Joseph, et sur l'humanité primordiale, voilà pour Adam. Mais il y a une perfection en Adam. Parce que quand Dieu crée, il crée quelque chose de, pour l'homme, quelque chose de parfait. Nous n'avons pas été créés parfaits. C'est à cause des séquelles. Mais sinon, la sagesse créatrice de Dieu aurait voulu que l'homme soit parfait. Chaque homme. Chaque femme aussi. Voilà. Et donc, il n'y a que peu. La sagesse créatrice de Dieu ne s'est réalisée en la perfection de son œuvre, dans le fruit primordial de sa création, voilà, que pour Adam, Ève, Marie, Jésus. Joseph n'est devenu parfait qu'à cause de son absolution. C'est pour ça qu'il y a une imperfection en raison des séquelles dans Joseph qui fait qu'on ne peut pas dire de lui qu'il est le nouvel Adam, finalement. Mais c'est l'homme. C'est l'homme, c'est le roi. C'est le visage, c'est la manifestation parfaite de l'époux une fois qu'il est recréé. Vous avez raison, il ne faut pas dire, Joseph, c'est le nouvel Adam. Vous avez raison. Alors, oui, dites.
J'aurais voulu savoir, quand Dieu a créé Lucifer et qu'il a été déchu, l'homme a été créé après, une fois qu'il a été déchu, ou en même temps?
Dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre. Dans le principe, Dieu créa d'abord le monde angélique, le ciel. Il était paré de tous les attributs des qualités et des attributs divins et de toutes les vertus. Et ils étaient des myriades et des myriades à être créés dans l'instant. Hein? Et comme il n'y a pas de temps encore, puisque l'ange est créé en dehors du temps, Dieu, à ce moment-là, il y a une possibilité du temps, hein, puisque dans le principe, il y a une assomption de toutes les possibilités d'amour dans le créateur de Dieu, puisqu'il y a la matière. Mais cette matière prend forme après la création du ciel. Dans la création, Dieu va créer quelque part quelque chose de... quelque chose qui va prendre une certaine forme, et on va appeler ça la terre. Il y a quelque chose, une forme, on ne sait pas laquelle, je suppose qu'il s'agit de la fameuse bénédiction, une palpitation, la fameuse palpitation eucharistique. Dans le Verbe de Dieu, il y a quelque chose. Et aussitôt que la matière a une forme, elle est forcément divine, et elle a quelque chose de divin, donc les anges comprennent, Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière est donnée à partir de l'unité de la créateur de Dieu avec la terre. La terre, c'est-à-dire la matière primordiale, minuscule, qu'il assume. Et donc là, la lumière jaillit de là, c'est-à-dire la lumière de la foi, qui s'impose au monde angélique, en disant, la foi vous est supérieure. Vous devez y pénétrer dans l'œuvre de l'humilité et du service pour vous y diminuer et pour exalter Dieu dans une exaltation que vous trouverez par le pur amour de la volonté éternelle d'amour du Père pour le Fils, dans l'exaltation de la création tout entière. Et là, quand Lucifer a compris qu'il n'était pas l'hypostase, qu'il n'était pas le suppôt de l'union hypostatique du Verbe de Dieu dans la création tout entière, y compris la matière, il y a eu une jalousie. Il a dit non, Dieu ne devrait pas, ne peut pas se souiller dans la kénose, dans l'anéantissement de la boue et de la matière. C'est pas digne pour Dieu. Dieu se trompe, nous allons aider Dieu à ne pas faire cette erreur. Nous allons le servir pour comprendre, vous voyez, parce que la nature humaine de Jésus subsiste dans le Verbe de Dieu. Donc Dieu va se saisir de l'homme, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus petit, par sa taille, par sa dimension, par sa capacité spirituelle. Et l'ange lui dit, mais pour que l'ensemble de la création puisse être l'union hypostatique, il faut qu'elle se fasse entre Dieu et puis sa création supérieure, c'est-à-dire moi, Lucifer. Il aurait voulu que l'union hypostatique soit emportée, assumée, et que ce soit Dieu et lui dans une seule hypostase, si je puis dire. Ça n'aurait pu être que dans l'ordre de la fusion de la lumière, mais la fusion de la lumière n'aurait pas été une source d'amour, de surmultipliant sans cesse. Il fallait pour ça l'humilité de la matière. La matière, donc, voilà, donc l'amour est supérieur à la lumière.
C'est parce que Dieu a créé l'homme que Lucifer s'est révolté.
Non, il n'a pas créé encore l'homme, il a créé la terre, donc créant la terre, la lumière donc intervient pour montrer que si Dieu passe pour la création de tout ce qu'il va créer, puisque la terre c'est une capacité, c'est une puissance, une potentialité à toutes les créatures, hein, toutes les formes de l'amour dans toutes les créatures, quelles que soient toutes les formes, maintenant inscrites dans la virilité, cette fois-ci, de la matière. Voilà. Et donc forcément Dieu aussi, lui-même dans son hypostase, va s'inscrire dans sa propre virilité dans la matière. Il y aura le Christ. C'est pour ça qu'il est dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière soit, c'est cette lumière qui est donnée pour illuminer de l'intérieur chacun des êtres angéliques, de la lumière surnaturelle cette fois-ci, Sinon, ils étaient dans une lumière créée, dans une lumière donc surnaturelle et divine qui devait s'emparer de la vastitude de leur être, de leur contemplation. Voilà. Et donc, ils ont compris que cette lumière surnaturelle, de la foi, était forcément messianique. Elle était relevée de l'hypostase du Verbe de Dieu vis-à-vis de toutes les potentialités de l'amour dans la matière, dans la terre. Donc Dieu créa le ciel et la terre. Et pour l'homme, je vous signale que c'est simplement ça, et ce fut le premier jour. Et l'homme, il a été créé quand même, sauf erreur, cinquième et sixième jour. Mais si vous voulez, on peut vous acheter une Bible. C'est ça. Bien sûr que l'homme est créé après l'homme. Il faut qu'il y ait des... Dès lors que la terre est créée, à ce moment-là, aussitôt, il va y avoir le temps. Le déroulement du temps. Et le déroulement du temps, l'homme va surgir au sixième jour. Comme nous l'avions vu dans la vision, la dixième vision hier. Oui, oui.
Vous pourriez mieux décrire le mot virilité.
Décrire quoi?
Le mot virilité.
Le mot. Oui. C'est décrire un mot.
L'étymologie d'où vient.
Ça, on va demander ça aux spécialistes. C'est viriditas. C'est du latin, donc c'est la force, vie, hein. C'est la force, c'est la puissance,
la vraie force qui vient de Dieu.
C'est ce par quoi la force est une force, mais de nature humaine quand même. Hein. Vir, c'est en même temps la force, mais c'est en même temps l'homme, ça dépend, hein. Il y a plusieurs... Et le fait qu'il y ait itas, ité, sponsal, ité, virilité, c'est ce par quoi la force prend toute sa force. Dans l'homme, donc quelque part, vous voyez la différence entre la virilité, c'est... Je crois que donc, tout prend sa force dans le monde minéral, dans le monde angélique glorieux lui-même, dans ce par quoi l'homme est rendu fort, c'est-à-dire l'union hypostatique du Verbe de Dieu. La viriditas, justement, c'est ce qu'on, c'est tout ce qu'on est en train de
la vraie force qui vient de Dieu.
Non? Oui, viri, mais la forme humaine. Viri, vous voyez, viri. Elle est de forme humaine. Elle n'est pas humaine, mais elle est de forme humaine. Et elle est pleinement elle-même dans les énergies, la création, parce que Dieu, quand Dieu considéra l'homme, il lui plut beaucoup. Il avait créé dans les énergies de sa force divine. C'est ça. Donc, quand ce qu'on a lu hier, quand Dieu vit l'homme, il lui plut beaucoup parce qu'il avait créé dans les énergies de la force divine. Voilà. Vous avez la définition dans cette phrase de la viridité.
La révélation qui a été donnée à
Saint-Hildegard.
Saint-Hildegard est un cadeau de Dieu pour l'humanité. Mais dans ce cadeau qui est fait, il y a un côté aussi un peu voilà ce qui va se passer et qu'est-ce que je vais y changer.
Vous voulez changer quelque chose ou...
Non, mais on ne peut rien empêcher.
Vous voulez dire que une prophétie, par exemple, il est dit, voilà, pourquoi demandes-tu un signe? Il ne vous sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas. Jésus annonce. Et le signe, au bout de 3 jours, quand Jonas est sorti du poisson et des eaux. Voilà ce qu'il dit. Les Juifs demandent. Et donc il annonce, il fait une prophétie. Est-ce qu'il était obligé de mourir et de ressusciter? Si on veut. Est-ce que l'humanité devait l'empêcher? Ils auraient pu l'empêcher, ils auraient pas, je ne sais pas si ça aurait marché. Parce que... Voilà, donc une prophétie, c'est la manière dont elle s'accomplit, c'est la manière dont elle s'accomplit qui détermine les libertés humaines et les libertés créées. Mais sa forme reste déterminée, elle est insécable. La volonté éternelle de Dieu est insécable. Dans le principe, Dieu crée des libertés incarnées, pleines de virilité, mais il y a quand même le vide, il y a quand même aussi le chaos, il y a aussi l'œuvre commune de la coopération. Et donc, il y a la possibilité du péché. Donc, cette possibilité du péché implique nécessairement qu'il y a un espace pour la miséricorde et que la vérité tombe, soit jetée à terre, l'incarnation. C'est une nécessité de la création de Dieu elle-même. Maintenant, la manière dont la vérité doit être jetée à terre, l'incarnation, la rédemption, ça. Donc ça, c'est bien une prophétie. Est-ce que c'était obligé qu'il y ait le péché ? Voilà, la manière, c'était pas du tout obligé qu'Adam prenne obéisse à Ève, enfin si je peux dire. C'est pas du tout obligé que, voilà, il aurait pu dire à Ève, écoute, tu es l'os de mes os, tu es la chair de ma chair. Mais il y a quelque chose qui s'est rétréci, comprimé, séché dans la virilité de ta féminité parfaite. Alors, reviens dans la virilité de Dieu avec moi et au fond de moi. Et il aurait pu lui donner l'absolution. Il ne l'a pas fait. Et elle aurait été pardonnée du péché originel. Et il n'y aurait pas eu de péché originel pour nous, la descendance. Adam n'a pas fait comme ça. Il y aurait eu plusieurs possibilités pour la réalisation de la prophétie dans le Bereshit. Hein. Et pareil pour... mais au fur et à mesure, il y a eu quand même... les hommes se sont déterminés avec les fils des hommes, avec les géants, avec les chiasmes. Il y a eu le déluge. Il y a une coopération avec les démons. Il y a eu le déluge. Il a bien fallu que le suc de la terre se renforce pour qu'il y ait la vie. À partir de Noé, avant, il n'y avait pas de vigne, il n'y avait pas d'arc-en-ciel. Ce que nous avons lu. Vous voyez, et donc, au fur et à mesure, les libertés humaines ont abouti à Pharaon, à la vente de Joseph par ses frères, à la jalousie. Enfin, elle s'est exprimée de telle manière que finalement, il fallait la descente en Égypte. Et à partir de là, bah, les formes de la rédemption, de la glorification, la victoire sur le mal, prenaient des formes plus précises par nécessité. Non pas en raison des libertés futures, mais en raison des déterminations passées. La trajectoire de l'humanité tout entière. Nous, aujourd'hui, nous portons le poids, la responsabilité, je veux dire. Nous ne sommes pas victimes du tout. De tout le pèlerinage de l'humanité du temps passé. Nous ne sommes pas victimes des malédictions du temps passé, mais nous en sommes responsables. C'est tout à fait différent, malédiction du temps présent. L'humanité porte des malédictions dans l'humanité présente, mais dans l'humanité de la future aussi. Et nous ne pouvons pas être des victimes. Nous ne pouvons être que dans l'unité et la virilité de l'humanité tout entière pour la porter comme des êtres donc de lumière dans le soleil, pour précisément qu'il y ait cette tempérance, cette constance, cette reprise, cette rédemption par la foi. Alors, c'est pas une prédétermination, c'est une responsabilité, c'est tout à fait différent. Ce que Dieu dit à l'homme, homme, ah, Saint Hildegarde, Dieu dit, alors j'ai entendu une voix qui me dit, homme, Saint Hildegarde quand même, j'ai entendu une voix qui me dit, homme, voyez bien, et il y aura, elle parle bien sûr de l'Antichrist, elle parle de, bien sûr que c'est une nécessité, puisqu'il y a le Christ, elle est venue après le Christ, donc c'est une nécessité de justice, qu'il y ait dans la balance, de quoi faire que l'humanité tout entière vienne à bout de l'Antichrist, qui est, bah, je veux dire, l'équivalent luciférien du Christ, c'est normal, hein. Parce que toute miséricorde doit être faite dans la justice, on vient de le lire ce matin. Vous avez le cercle de feu et le cercle noir. Et ils sont de même dimension. Mais ce n'est pas une prédestination, pas du tout. C'est un chemin de responsabilité nécessaire. Voilà. D'accord ? D'autant plus qu'on ne peut pas dire que les formes prophétiques de l'Apocalypse de Saint Jean et de l'Apocalypse de Saint, du Saint-Père, Benoît XVI, soient d'une précision si parfaite qu'elles se prédéterminent dans des événements parfaitement déterminés dans le monde du temps, des saisons, des guerres et des révolutions. C'est-à-dire ça, prenez, si le feu doit tomber pour châtier, est-ce qu'il doit brûler les gens et les carboniser? Est-ce que ce feu doit les prévenir par sa torridité? Est-ce que ce feu doit être un feu de Pentecôte du Saint-Esprit qui doit brûler leur cœur et anéantir en eux le vieil homme, le brûler, le carboniser, et le rendre noir et le rendre à la noirceur du cercle. La manière dont doit se réaliser, ça dépend. C'est nous qui prenons autorité. On voit bien que les formes des éléments peuvent se réaliser selon différents modes. Divin, surnaturel, charismatique, préternaturel, physique, matériel, angélique, selon les choix que l'homme fait. Mais le démon et l'antichrist s'attaqueront dans l'homme à la conception. Ça, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Le démon ne peut pas faire autrement. L'antichrist non plus. C'est le seul moyen pour lui de faire tomber l'humanité tout entière. Ne serait-ce qu'un peu. Ne serait-ce que pendant un temps. Un temps limité. Un temps court.
Saint Hildegarde place la vérité, dit l'élément à que confère la vérité.
Oui, pourquoi, c'est l'air à que, c'est ça? Ou c'est l'élément à que?
L'élément à que.
Non, ça n'existe pas l'élément. Vous avez, non.
Non.
Vous avez mal noté, non? Non, non, la vérité ne vient pas d'un élément. C'est le contraire. Donc rappelez-vous, donc pour faire oraison, il faut maîtriser les éléments contraires. L'oraison, c'est une nourriture divine. C'est une nourriture divine, c'est un très beau gâteau. C'est de la meringue, il y a des amandes, c'est de la crème, c'est des fraises, comme chantilly, c'est en plus très 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 beau. Mais tu mets une goutte, même minuscule de cyanure, tu meurs. Il n'y a plus d'oraison. Un seul mouvement, il n'y a plus d'oraison. Donc, je me permets de préciser ça pour ceux qui ne l'ont encore pas vraiment intégré. Pourquoi ? Est-ce qu'un mouvement est un péché ? Un mouvement n'est pas un péché. Mais on doit quand même demander pardon. Parce qu'il est le signe du péché. Et donc, on doit faire quatre choses à chaque fois qu'on se surprend dans un mouvement, alors qu'on veut se mettre entre les mains de Dieu, dans la viridité unitive de la création tout entière, plongée dans l'unité de la très sainte Trinité, dans l'unité universelle. Notre-Dame de l'universalité crée en nous cette unité parfaite. Alors on est suspendu et cette unité est insécable. Et si elle se met en mouvement, c'est en raison du mouvement éternel, de la volonté éternelle d'amour de Dieu, et pas en raison de notre mouvement à nous. Donc si il y a un grain dans la machine, un petit grain, dans une immense roue, la roue s'arrête de tourner. Elle est le signe d'une volonté propre qui se dresse, malgré sa petitesse, contre le mouvement éternel d'amour de Dieu. Alors l'oraison s'arrête. Le sachant, parce que c'est l'enseignement infaillible de l'Église, le sachant, c'est beau, et quelque part c'est vrai, moi j'aime bien. Ça arrive, quoi. Qu'est-ce que vous voulez, ça arrive. On a des tics. Le sourcil qui se soulève. Moi, mon père, c'était la narine. Quelquefois, vous avez ça. Moi, j'avais ça au noviciat. J'avais. C'est dans mon oreille, la membrane de l'oreille qui faisait. Mais là, je le fais trop fort, si vous voulez. C'était. Je ne pouvais rien. Ça fait ça, c'était un mouvement, ça. Et ça peut, je vous l'ai déjà dit, la suffocation. C'est comme un enfant qui s'arrêtait de pleurer il y a un quart d'heure. L'enfant s'est arrêté de pleurer, le bébé, et puis un quart d'heure après, vous avez cette petite suffocation de l'enfant. C'est immaîtrisable. Et c'est pourtant un mouvement. Alors, vous êtes là, il y a des mouvements comme ça. Hop. Il y a des mouvements qui sont plus déjà. C'est vrai, croiser les jambes, croiser les pieds, gratter la tête, passer l'oreille. Un rictus, un rototo, un prout, eh oui, attention, ce sont des gaz inflammables. Ce sont des mouvements, mais est-ce qu'ils sont volontaires? Non. Il y en a qui sont volontaires aussi, en disant, tiens, je vais me lever, je vais. Je vais changer, quoi, je change de cap, je vais faire un tour, je reviens, de toute façon, bon, je reprends le fil. Je maîtrise parfaitement la situation. Je. Je vais changer mon siècle là. Je ne vois pas pourquoi. Je vais tomber dans le repos du Saint-Esprit. Hein? Eh bien, ça, c'est pas l'oraison, ça.
Le demi-tonne qui tombe, ça fait du bruit.
Oui, ça s'entend.
Alors, ces mouvements, je peux. Ces mouvements-là, je parle dans le temps de l'oraison, sont très importants. C'est presque le bras de levier à partir duquel je vais entrer dans la transformation. Ces mouvements sont précieux, sont très précieux. Vous voyez, parce que très très peu, hein, vous me disiez, on fait des retraites, personne ne nous explique l'oraison, jamais, c'est pas normal. Puisque c'est la base de la vie chrétienne. C'est le c'est vrai, c'est inouï que le catéchisme de 1980, moi ça m'a bouleversé quand j'ai reconstaté ça. Pas un mot sur l'oraison dans ce gros bouquin du catéchisme de 1980. Pas un mot. Alors c'est l'enseignement principal de l'Église catholique. Première demeure, deuxième demeure, troisième demeure. Purification, croissance, illumination, sanctification et perfection. Tout de même, enfin quoi ? Avec ces signes, avec ce qu'il faut, comment, etc. Bon, c'est pas compliqué. Alors, bon, maintenant, aujourd'hui, on est fatigué. Qu'est-ce qu'on est grégaire ? Qu'est-ce qu'on est rototo, prout-prout, pipi, trivile, tralala, pam-pam. Blascoudou la sayas. Filambrasse, mouillasse, poisse. Non, franchement, c'est dramatique. Hein. Et vous aurez beau répéter ce que je vais vous dire sur la raison 100 fois. Non, c'est pour repartir. C'est comme si personne ne l'avait jamais entendu. C'est incroyable. Non, écoutez-moi bien. Je reviens. Donc, ces mouvements sont très importants, ils sont très précieux. Ils font partie des éléments qui constituent l'état de notre responsabilité vis-à-vis de l'accomplissement de l'univers en Dieu. Parce que l'Aquilon fait partie de l'univers. Hein. Et saisissons-nous la virilité de notre volonté dans la raison qui souffle sur le feu du corps. Et il y a ces mouvements. Et ces mouvements, c'est nous qui devons en faire miséricorde, transformation, disparition, victoire. Vous voyez ? Bon, un mouvement. Je n'ai pas besoin. On a déjà fait la liste de toutes sortes de mouvements. Comme par hasard, ça me gratte. 3 minutes après le début de l'oraison, ça me gratte. Mais ça me démange. démangeaison, hein. C'est un mouvement. J'ai pas bougé, mais ça me gratte. Mais le mouvement, c'est l'irritation. Je peux rajouter à ce mouvement un deuxième mouvement. Donc vous repérez les mouvements, c'est pas simplement comme quand c'est pas simplement les tics nerveux. Hein? Oui. Mais oui.
Ah bon?
Mais bien sûr. J'éternue.
Quand on pue les moufles, qu'est-ce que ça fait?
Moi, je vais toujours faire ressort avec la tête. Je vais tout d'abord jusqu'à ce que
je... Vous êtes des assassins.
Bon, donc, un mouvement, il faut que je demande pardon parce que, à cause de ce mouvement qui vient vraiment de moi, qui émane de moi, ce mouvement est le signe que je dis non à Dieu dans la transformation de la septième demeure. Dans la transformation de la sixième demeure, dans la transformation de la cinquième demeure, dans la transformation surnaturelle chrétienne de la quatrième demeure. Et donc elle signe, elle m'indique que en moi il y a un péché mortel. Puisque je tue l'action surnaturelle de Dieu. Ce mouvement en est le signe. Mais je ne vois pas quel est le péché mortel. Donc je demande pardon. Donc je prends autorité sur ce mouvement. C'est trop tard. Vous comprenez? C'est... Ah, tiens. Oh, sourire tout de suite. Un petit sourire en disant, ah, tiens, un mouvement génial. Donc je prends ce mouvement. Je le prends. Avant qu'il ne revienne une deuxième fois, je l'arrache en dehors de moi. Je le prends, j'en prends possession, je prends autorité sur elle, je demande pardon, je l'arrache et je le plonge dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que, voilà, s'il est écarlate, il devienne pur et immaculé comme la neige. Mais ayant ainsi dégagé la couverture et le manteau du péché, le péché est à nu, comme on vient de le lire ce matin. Il est tout nu. Et du coup, je peux, même si je ne sais pas exactement, ça peut être un péché d'adultère, hein, ça peut être un péché un péché de désobéissance. Voilà, je peux avoir une passion, je sais pas, moi, quand j'avais 20 ans, après tout, pourquoi pas, enfin, ça dépend. Mais une passion où j'ai dit oui mais, et non à Dieu, mais à fond. Et quelque part, je n'y ai jamais renoncé. Je l'ai regretté. J'ai trouvé que ça a fait des dégâts. Je le regrette, mais je n'ai jamais demandé vraiment pardon. Je n'ai pas déraciné ce péché. De toute façon, je ne me rappelle plus quel est ce péché. Est-ce que c'était quand j'avais 10 ans? À un moment donné, vous avez 12 ans. De ce jour où j'avais fait ce péché, j'ai insupporté ma mère. Est-ce que j'ai seulement une fois demandé pardon en confession, par exemple, ou en absolution, en tout cas, au moins? Ou en fruit du sacrement d'absolution. Est-ce que j'ai demandé pardon pour arracher? Je ne sais pas quel est, par rapport au mouvement que je viens de donner, je ne sais pas lequel péché j'ai fait exactement. Mais je sais qu'il existe. Vous voyez la différence entre savoir l'existence de Dieu ou la connaissance de Dieu. C'est pas pareil. Donc je touche l'existence de Dieu et je touche la lumière intérieure de Dieu qui fait que je le contemple, je le connais, j'en vis. C'est pas pareil. C'est pas pareil de toucher, de savoir que quelqu'un existe et puis de le connaître. Et d'aller dans l'au-delà de l'unité des deux par la connaissance. C'est pas pareil. Vous êtes d'accord? Pour le péché, c'est pareil. Ce mouvement m'indique qu'il existe et je touche l'existence de ce péché. Même si je ne sais pas quand et quel il est exactement. Même si peut-être je peux avoir par discernement une certaine intuition. C'est pas nécessaire que je sache exactement si c'est ça ou ça. Mais je sais que je touche son existence, parce que quand je touche l'existence de Dieu, c'est Dieu que je touche, c'est bien lui que j'adore. Même si je ne le connais pas encore par les œuvres de la grâce et des dons du Saint-Esprit, c'est quand même lui que j'adore. Donc voyez bien, je peux donc prendre ce péché, puisque je touche son existence, et je peux dire, Seigneur, ce péché, je décide et je choisis. Aujourd'hui, de le déraciner, je ne suis plus d'accord avec ce péché-là. Hein. Celui qui correspond à cette conséquence, puisque la conséquence de ce péché, c'est ce mouvement. Cette obsession, quelquefois, c'est un mouvement de pensée. Je fais oraison et j'ai un fantasme. Oh, en pleine oraison! Je dis le rosaire. Au bout du 17e mystère, des fantasmes. C'est un mouvement. C'est un mouvement de la pensée. Quelquefois, une colère, une rage noire. Au moment où je fais oraison, au bout d'un quart d'heure, une rage noire. Tout ça vient. C'est un mouvement. Tu bouges pas. Aucun tic. Tu parles qu'il faut pas de mouvement et puis les gens qui se baladent, qui chantent, qui rampent, qui se... des faux fileurs, des glisseurs. On va installer des toboggans si vous voulez. Faire des retraites toboggans, vous savez, montrer juste terraplaning. Donc vous comprenez, premièrement je demande pardon pour le mouvement qui est la conséquence, je la plonge et je le fais disparaître, je l'ai arraché, c'est mon pouvoir surtout de descendre du coup à l'existence de la cause de ce mouvement qui est le péché. Ça va? Et ce péché, je peux le prendre puisque je sais qu'il existe. J'ai fait un mouvement, donc je sais qu'il y a quelque chose à quoi je n'ai pas renoncé, que je n'ai pas déraciné de ma volonté profonde. Ça va?
Mais c'est pas nécessaire de savoir quel péché?
C'est ce que je viens de vous dire pour la cinquième fois. Ce n'est pas nécessaire de savoir quel il est exactement. Vous savez qu'il existe. Voilà, et vous savez. Mais vous dites, quand je saurai ce qu'il est de l'intérieur avec précision, je ferai toujours ce même mouvement pour l'arracher de moi, pour y renoncer, demander pardon, le donner parfaitement, et l'arracher parfaitement et le plonger dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ pour en recevoir l'absolution. S'il est écarlate celui-là, eh bien, il devient blanc, pur comme la neige. J'ai fait que deux choses là. Je dois en faire une troisième, une quatrième. Donc je vous rappelle, la troisième, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, mais si j'ai été porté à ça, si j'étais porté à faire ce péché, si j'étais porté à fumer un joint, à prendre de l'acide, tiens, par exemple, si j'y étais porté à ça, c'est à cause de toutes sortes de... Il y a eu 68, il y a eu... il y a plein de trucs, c'était nouveau, pas tout c'était médical. Et puis voilà, c'est la nature, et puis c'est normal, puis c'est la liberté, il y a les idéologies, il y a l'éducation, il y a plein de trucs. Enfin, je suis porté par tout un environnement, il y a mes copains, il y a le prof de philo. il y a le prof d'histoire, il y a le surveillant, il y a le cousin. Enfin bref, il y a le climat familial. Enfin bref, il y a plein de choses qui conditionnent et qui font que je suis amené, bon allez, à choisir de concentrer toutes ces circonstances qui sont les causes de mon, qui sont les causes circonstancielles de mon choix de le cristalliser dans un péché plus grand. Ça va, c'est un péché personnel. Donc il faut que je prenne toutes ces causes, troisièmement, voyez, et que je les déracine. On appelle ça le Yetzer Hara en hébreu. Le noyau du péché, je l'ai donné, c'est le mien, mais la racine du péché, je la donne aussi. Ça va? Je l'arrache de la terre de l'humanité que j'ai vécue, au milieu de ma famille, des hommes, de la société. Je l'arrache, comme je déracine une espèce de touffe. Je tire sur une herbe, ça fait une touffe qui vient. Et je demande pardon, je la plonge dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'elle disparaisse. Et là, je n'ai fait que la moitié du travail jusqu'à maintenant. Parce que je ne sais pas, été le premier, hein, je ne suis pas le premier quand même, à avoir le tic. À cause de ce péché-là, et pour le même enracinement et les mêmes circonstances de mon humanité, dans l'humanité. On a été peut-être des centaines de milliers depuis Adam à avoir exactement le même péché pour les mêmes causes avec la même conséquence. La conséquence, c'est ce mouvement. Et donc, j'ai autorité pour prendre depuis Adam jusqu'à aujourd'hui tous les hommes qui ont ce péché pour les mêmes raisons et avec les mêmes conséquences, c'est-à-dire le même type de mouvement. Et je prends dans toute l'humanité, et je déracine dans toute l'humanité ce péché. Je suis responsable de la terre tout entière, c'est-à-dire de l'humanité passée, de l'humanité présente, et du coup de l'humanité future, parce qu'il faut que ce mouvement s'arrête. Et donc je prends le même péché, et avec les mêmes causes et les mêmes conséquences, dans chaque être humain qui est rentré dans ce... Peut-être c'est seulement 1000 personnes depuis Adam, peut-être que c'est 1 milliard, ça fait rien. Et je le prends, je le plonge, je demande pardon, c'est 4 pardons, hein. Je demande pardon, je le déracine, et je le plonge dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur le fait disparaître dans l'humanité nouvelle, de la viridité, de l'air à queue. Et si je fais ça, ce mouvement ne reviendra plus dans l'horizon. C'est absolument certain. Donc si ce mouvement revient, c'est que je n'ai pas voulu utiliser, je n'ai pas voulu que l'horizon vienne. Je préfère être dans mon mouvement, dans mon péché, dans mon unité avec Satan dans l'humanité tout entière en ce péché. Et ma conscience profonde le sait, le veut, le désire et le choisit encore. Donc c'est très facile. J'ai mis un quart d'heure à vous l'expliquer. Et pourtant, ça se fait en moins de 12 secondes. 4 secondes pour le premier, 4 secondes pour le second, 4 secondes pour le troisième, 4 secondes pour le quatrième. 4 fois 4, 16.
Je le fais faire, mais ça marche pas.
Le premier, c'est le mouvement. Moi, je demande, tiens, je viens de faire un rototo. En pleine oraison.
Après, le deuxième, pardon.
Donc, je prends ce rototo, je le prends, je l'arrache, je demande pardon, je le mets dans le sang du Christ. Puis du coup, le péché qui est à l'origine, je le prends, je l'arrache de moi, et je le mets dans le sang du Christ, non, pardon. Et puis, toutes les causes qui correspondent à ce péché que j'ai fait et qui est encore en moi, toutes les causes qui... Voilà, ça date d'il y a 15 ans, 20 ans, je m'en fiche, après tout, c'est pas grave. Je prends aussi toutes les causes, toutes les racines de ce péché, je les déracine, et je demande pardon pour ce Yetzirara. Et enfin, troisièmement, mais toute l'humanité, ils sont en purgatoire. Là, ils sont peut-être au ciel, certains, mais les conséquences et les séquelles sont dans leur descendance. Donc je demande pardon pour tous ceux qui ont ce péché-là, pour les mêmes causes et pour... Et avec les mêmes conséquences. Vous voyez, cause, choix, conséquence. Donc d'abord conséquence, puis choix, puis cause. Et puis ensuite, véridité. Dans l'humanité tout entière. Et donc la quatrième, si je prends tous ceux qui, tous les hommes, toutes les âmes des hommes qui ont été pris dans ce mouvement pour le même type de péché, pour les mêmes causes, je demande pardon au Père pour la nature humaine tout entière dans l'Esprit Saint, avec le sang de Jésus, le déracine dans sa miséricorde et recrée un monde nouveau à partir de là. Et dans le cinquième temps, je demande au Saint-Esprit et à la véridité de l'Immaculée Conception et au trône d'engendrer en moi, s'écoulant en moi, la vertu contraire venant de Dieu immaculé et éternel. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. C'est très simple. C'est très très simple.
Et s'il y a 20 moufs qui viennent vous embêter quand vous faites oraison, c'est des mouvements si vous faites ça?
Non. Tu prends l'insecticide et après tu fais oraison.
Non, parce que là, c'est
moi, je prends la tempête, je tue tout et après je fais.
Non, mais c'est pas des mouvements ça. Parce que pour résister à gratouiller avec des mouches...
Tu as autorité sur les éléments. Donc la mouche, si elle vient sur toi, c'est que tu ne prends pas autorité sur les éléments. Ah.
Donc on dit, je prends ce mouvement, le péché qui l'accompagne, les causes de ce péché, toute chair qui comme moi a le même mouvement...
Avec le même péché, les mêmes causes.
Je te demande pardon, je l'arrache de moi, je l'arrache de
lui. Non, là vous l'avez fait en une seule fois, alors qu'il faut le faire en cinq fois.
Et les causes, c'est pas le même.
Là vous le faites en une seule fois, alors qu'il faut le faire en cinq fois. Premièrement, d'abord le mouvement doit être arraché et je demande vraiment pardon pour ce mouvement.
Tu l'arraches de
moi. Puis après, une fois que c'est fait, vous avez ce témoignage que Jésus vous pardonne ce mouvement et l'enlève. Et il accepte, vous demandez pardon pour le péché qui correspond. Vous touchez d'ailleurs l'existence de ce péché-là, et vous demandez pardon pour ce péché, jusqu'à ce que vous ayez le témoignage qui est vraiment arraché de vous dans le sang précieux de Jésus, et remplacé par la grâce. Et enfin, bon, pareil pour les causes. Demandez pardon. Et puis pareil ensuite pour Jésus, il a demandé pardon pour tous les péchés du monde, de tous les hommes. Donc, vous êtes dans la grâce chrétienne quand même. Si vous êtes chrétien, vous êtes un membre du Christ. Donc, faites le quatrième aussi, jusqu'à ce qu'il y ait le témoignage du Saint-Esprit, que ça y est. Et du coup, avec l'Immaculée Conception, le Saint-Esprit vient remplacer toutes les parties ainsi laissées vacantes. Non, Saint-Esprit vient combler toutes les parties restées vacantes, puisque j'ai tout arraché. Donc, c'est un. Infiniment simple. Et l'oraison seule permet cela. Parce que si quand vous êtes en train de manger, c'est difficile. Hein. Vous êtes en train de rouler en bagnole. C'est bon. Vous réalisez la transactuation surnaturelle, c'est bon ça. Naturel. Surnaturel, c'est virginal. D'accord ?
C'est Dieu qui décide de demeure où on est, on ne peut pas aller dans la demeure qu'on veut.
Mais non, c'est Dieu, il veut que vous soyez à la septième demeure. Si vous n'y êtes pas, c'est parce que vous êtes dans des mouvements. Et donc vous décidez que vous ne voulez pas y aller, c'est tout. Donc c'est vous seul qui décidez d'être dans la septième demeure. Je ne connais aucune âme généreuse, docteur de l'Église, Saint Thérèse d'Avila, qui ne fasse oraison tous les jours, qui n'atteigne les demeures d'union parfaite en moins de 9 mois. Aucune. Donc c'est une question de volonté personnelle. C'est une volonté de volonté spirituelle. C'est pas que je peux pas, c'est que je ne veux pas. Je découvre ça grâce au mouvement, qu'en fait je ne veux pas de Dieu. C'est génial de savoir ça. Moi je croyais que j'étais juste victime de blessures. J'ai été blessé. Vous comprenez? Alors Prozac, Zoloft. Ça me gratte. Ben, fais oraison. Et dès qu'il y a un mouvement, fais ce que le bon Dieu te dit. Demande pardon. Fais-le une fois, fais-le deux fois. Dans l'oraison, elle dure une demi-heure. Tu le feras. Il y aura peut-être 47 mouvements. Eh ben très bien, tu le feras 47 fois en une demi-heure. Crois-moi, crois-moi. Tu passeras vite, très vite à la troisième demeure. Et en tout cas, si même un mois après ce régime, tu as encore un ou deux mouvements, eh bien tu le feras encore. Mais dans quelques espaces intérieurs, au bout de 7 minutes, il y aura une mission invisible du Saint-Esprit qui t'établira au moins quelques instants dans la quatrième demeure. Ne t'inquiète pas là-dessus. Et si tu continues, dans moins de 40 jours, tu seras établi dans ton centre de gravité, en la quatrième demeure, sans mouvement, avec la récapitulation de toutes tes puissances dans la quiétude du corps, de l'âme et de l'esprit, pour faire de toi, corps, âme et esprit, une disponibilité surnaturelle parfaite. Et de là, Dieu pourra te prendre et atteindre en toi la liberté du don, de ton innocence divine originelle. C'est très important de donner sa vie de l'alpha à l'oméga. Notre vie chrétienne commence seulement là. Voilà le catéchisme de l'Église catholique.
Et pas dans celui de 1980.
C'est toujours le catéchisme de l'Église catholique, même s'il y a des absences. Parce que le catéchisme de l'Église de 1980 considère que tous les catholiques savent ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de le répéter dans le gros catéchisme de 1980. C'est présupposé connu, puisque c'est la base. Bon. Ne me dites pas que c'est la première fois que vous entendez parler de ça. C'est la première fois que vous avez...
Non.
C'est nouveau.
Non.
C'est totalement nouveau, vous ne saviez pas.
Ça fait longtemps.
Non,
vous l'avez
plusieurs fois, mais... Je ne sais pas bien.
Même, ce que vous disiez avant, c'était même les... quand on avait une masse qui montait comme ça, on pouvait les enlever, l'arracher. Vous avez commencé comme ça.
Je peux vous poser une question. Je connais quelqu'un qui s'est mis à l'oraison et qui, au bout d'un moment, elle se met à écrire ce que le Seigneur lui dicte. Mmh. Alors donc, elle fait des mouvements. Donc,
oui.
Elle est dans quelle, c'est à laquelle demeure ça?
Elle arrête l'oraison. Alors qu'elle écrive son message et qu'elle fasse oraison à un autre moment.
Et cette personne ne reçoit que dans ces moments-là.
Il faudrait peut-être qu'elle dépasse la deuxième demeure. Parce que ça, c'est... Il y a des gens qui sont dans deuxième, troisième demeure aussi, et que du coup, ils sont investis par le feu, l'amour, et même les plaies de Jésus, hein, les stigmates qui commencent... Alors, comme on disait, ah, mon père, c'est stigmate, et voilà, ça se passe comme ça, ça comme ça. Je dis, oh, c'est, oui, c'est bien, c'est bien. Ah, oui, hein, je suis quand même dans les demeures, hein. Non, c'est juste ça, c'est la deuxième demeure, ça. C'est seulement la deuxième demeure. Elle croyait que c'était un mariage spirituel. Ben forcément, si tu as des ruptures métapsychiques, si tu as des chakras qui s'ouvrent, tu médites les horizons d'Anne Brigitte, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est normal que tu aies mal au toit, aux mains, ici, c'est normal, c'est normal. Même qu'il y ait du sang qui coule dans le dos, c'est pas aberrant, je veux dire. Ça prouve que le péché est encore là, c'est ce que disait Marthe. Moi, tous ces phénomènes-là, je les ai eus, hein, vous savez, hein, quand j'étais encore dans le péché. Et quand vous méditez, puis vous avez des messages, c'est charismatique, vous comprenez ? Saint-Hildegarde, ben, quand le Seigneur venait lui parler, ben, il lui parlait. Elle obéissait, si je puis dire, puisqu'elle était sous la direction de l'Église, du Pape, de Saint Bernard, de son père spirituel, tout ça, bon... Et bon, et ben ça l'empêchait pas. Ça l'empêchait pas. Elle était à ce moment-là en pleine activité. Elle n'avait pas à se préoccuper. Qu'elle voit ça à la grosse, elle fait ce qu'elle a à faire. Puis, mais elle garde quand même sa vigilance pour l'oraison. Tu vas pas me dire que tu reçois des messages pendant 17 heures par jour. Ben sinon, là, pour le coup, écrivez-moi. Téléphonez-moi de toute urgence. On va terminer du coup cette vision, on va terminer cette dixième vision, qui est belle, hein, parce que je crois que c'est ça, hein, si vous regarderez, c'est plus ou moins ça, on voit ça sur le bord orange, là, et noir, on voit les animaux, le lion, le crabe, l'autre, hein, l'ours, tout ça.
Ça s'appelle le livre des œuvres quotidiennes.
Hein, vous avez les cercles ici, le premier cercle qui est ici, le cercle noir, qui est de même dimension, le cercle des os aqueuses, le cercle des ligaments blancs, etc. Et puis vous avez la figure humaine, et puis vous avez les différentes couleurs du centre, etc. etc. Donc maintenant on passe, et puis vous avez les souffles, et puis vous avez les animaux.
Hein?
Les souffles, ils sortent de la bouche de chacun des animaux.
Oui.
Et ils vont vers la sphère et le... Mais en réalité, vous devez rajouter, c'est une autre peinture, vous devez rajouter un homme comme ça, au milieu de tout ça, et vous avez l'ensemble.
C'est autre vision.
C'est la même chose, en fait. Parce que souvent, Saint-Hildegarde avait donc des visions, et l'une venait compléter l'autre. Hein. Voilà. Allez. Voilà, c'est celui-là. Faites passer celui qu'on est en train de faire. Faites passer, c'est celui-là. On y va, on termine, on a un quart d'heure quand même.
Oui.
Dans toutes ces têtes, donc,